Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 15h à Mamoudzou.
RFI midi.
Et 13h à Paris, la première partie de RFI Midi et le journal, c'est avec vous, Margot Ratézic, bonjour.
Bonjour Arthur et bonjour à tous. Dans ce journal, nous évoquerons largement la situation à Mayotte. 10 jours après le cyclone Chido qui a ravagé l'archipel, la France est en deuil national. Une minute de silence a été observée et puis viennent aussi les questions. L'État a-t-il correctement rempli sa mission à Mayotte? Élément de réponse dans ce journal. En France, pas de gouvernement avant 17h, temps universel. Ce lundi, l'annonce est promise avant Noël, plus que 2 jours donc avant de connaître la composition du gouvernement de François Bayrou. Enfin, nous vous emmènerons en Syrie. Les étapes de la transition restent floues après la chute du régime Assad. Illustration à venir à Souheida dans le sud, où la société civile s'était secrètement préparée.
Une minute de silence a donc été observée en France il y a 2 heures en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte.
Oui, ce lundi est une journée de deuil national. Les drapeaux sont en berne. C'est le cas notamment à Saint-Denis, au nord de Paris, où vous vous trouvez, Baptiste Coulon. Saint-Denis, où une petite centaine de personnes s'est rassemblée ce matin devant la mairie.
Mesdames et messieurs, en hommage aux victimes à Mayotte, je vous prie de bien vouloir respecter une minute de silence.
11h pile ce matin, les Dionysiens, les Dionysiennes se fichent en silence. C'est aussi le cas des élus de la ville vêtus de leurs écharpes tricolores sur le perron de l'hôtel de ville, de quelques pompiers de Paris également, soigneusement alignés au garde à vous en soutien à leurs collègues mobilisés à 8000 km d'ici. Moment de recueillement et de solidarité aussi auquel Saint-Denis se devait de répondre présent, estime Armand, un habitant.
C'est une ville cosmopolite avec tous les gens qui ont la main sur le cœur, qui sont un peu plutôt affectés par tout ce qui peut se passer, non seulement dans les territoires outre-mer, mais aussi à la métropole. Ils ont toujours eu répondu présent, que ce soit aux grands événements ou bien aux événements malheureux, auprès de tous ceux qui ont besoin, les nécessités, quoi. Donc en gros, c'est vraiment important pour la population de répondre présent à ce moment un peu plutôt douloureux, quoi.
Et preuve que la ville répond présent, se montre solidaire. Une collecte de nourriture et de produits d'hygiène a débuté ce matin à Saint-Denis. Nous y étions, des cartons pour certains déjà remplis et prêts à partir en container en direction de Mayotte.
Merci Baptiste Coulon. J'ajoute que 10 jours après la catastrophe, le bilan, toujours provisoire, fait état de 35 morts et 2500 personnes blessées. Mais on craint des milliers de décès. Et après l'émotion, le recueillement, une question se pose désormais. L'État a-t-il correctement rempli sa mission face à cette catastrophe? Bonjour Victorien Villaume.
Bonjour Margot, bonjour tout le monde.
Une partie de la classe politique en doute fortement, Victorien.
Oui, à commencer par Estelle Youssoufa, Margot, la députée de Mayotte, invitée de RFI ce matin, nous l'expliquait avec colère. 10 jours après la catastrophe, non seulement l'accès à l'eau et à la nourriture reste extrêmement problématique, mais le gouvernement français communiquerait de façon malhonnête.
Quand le gouvernement parle de remettre de l'eau, c'est de l'eau avec des coupures. C'est quand même gravissime.
L'État français en défaut également vis-à-vis de l'arrivée des secours, affirme Estelle Youssoufa.
Les familles n'ont toujours pas vu l'ombre des premiers secours dans certaines zones les plus reculées. On continue à avoir des gens qui n'ont pas vu un médecin. Et on entend ce discours de l'État ici, comme si les secours étaient en train de se déployer.
On a laissé des gens mourir, les mots très forts de la part de Jean-Hugues Ratenon, député de gauche, député cette fois de La Réunion. Il dénonce un bilan humain qui reste désespérément imprécis.
Le président de la République décrète un deuil national, mais ce deuil repose sur quoi? On n'a pas recensé les victimes. Il est urgent de mettre véritablement les moyens en place.
La catastrophe aurait été bien mieux gérée si elle s'était déroulée dans l'Hexagone, pronostique le parlementaire qui dénonce un deux poids, deux mesures.
Merci Victorien Villaume du service politique de RFI. Et en raison de ce deuil national, justement, le nouveau gouvernement français ne sera pas annoncé avant 17h, temps universel. Annonce donnée comme probable dimanche soir, finalement reportée. Bref, on ne connaît toujours pas le nom des ministres de François Bayrou. Les tractations s'éternisent, il ne reste pourtant que 2 jours avant Noël pour l'annonce. En Syrie, l'autorité de transition continue ses efforts d'ouverture auprès de la communauté internationale. Le nouvel homme fort du pays, Ahmed al-Shara, plus connu sous le nom d'Abu Mohamed al-Joulani, a reçu ce dimanche le chef de la diplomatie turque ainsi qu'une délégation libanaise. Les étapes de la période de transition restent très floues pour la majorité des Syriens. Dans la ville de Souéida, dans le sud du pays, la société civile s'était secrètement préparée à une telle situation. Le reportage de nos envoyés spéciaux Julien Boileau et Oriane Verdier.
Voilà des années que Wissam Radouane participait secrètement à différents projets associatifs depuis Souéida.
Deux semaines avant le lancement de l'offensive sur Alep, plusieurs signaux nous ont alertés sur des changements imminents dans le pays. Nous avons réfléchi à différents scénarios et à un plan de protection de la société. Nous avons créé un groupe, contacté des volontaires et des gens spécialisés dans la gestion du danger, dans le domaine médical et dans d'autres compétences.
Une fois le régime tombé, ce groupe secret est entré en action parallèlement aux groupes armés locaux. Il continue aujourd'hui encore de nettoyer les rues, protéger pacifiquement les points stratégiques tels que les boulangeries ou les pharmacies. De la même manière, le réseau associatif national s'est rapidement révélé au grand jour. Depuis Souéida, Nour Salam y participe.
C'est une réponse d'urgence. Nous prévoyons d'organiser des formations aux droits civiques dans toute la Syrie. Les gens ne savent pas quelles sont les responsabilités du gouvernement intérimaire ni quel rôle ils peuvent jouer. C'est un problème, car si les gens ne sont pas conscients de leurs droits, ils ne participeront pas à l'écriture d'une nouvelle constitution. Et ce texte ne représentera pas le peuple.
Le débat au sein de la société civile est aujourd'hui de savoir quelles relations entretenir avec l'autorité de transition. Certains appellent au dialogue, d'autres refusent de la reconnaître. Julien Boileau, Oriane Verdier, Souéida, RFI.
RFI, 14h06 à Gaza, où malgré l'espoir d'un cessez-le-feu, la guerre fait toujours rage. 35 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans des bombardements israéliens, annonce la défense civile. L'une de ces frappes a notamment visé une école abritant des déplacés à Gazaville. Bilan de cette frappe, 8 morts, dont 4 enfants. Le mouvement du Hamas ainsi que deux autres groupes palestiniens avaient pourtant laissé entendre samedi qu'un accord de trêve était, je cite, « plus proche que jamais ». Plus de 1000 soldats nord-coréens déployés par les forces russes ont été tués ou blessés dans les combats contre l'Ukraine. Bilan donné par l'armée de Corée du Sud, mais pas confirmé par le Kremlin, qui n'a pas admis officiellement bénéficier de l'aide humaine de Pyongyang.
RFI Midi.
RFI, des milliers de Serbes étaient dans la rue ce dimanche contre le pouvoir. La population demande des comptes après l'effondrement du toit d'une gare le mois dernier. 15 personnes ont péri dans cette catastrophe. Les manifestants accusent les autorités de corruption et réclament la démission du gouvernement. La réponse du président panaméen face aux menaces de Donald Trump ce week-end de reprendre le contrôle du canal de Panama si le pays d'Amérique centrale ne répondait pas à ses exigences. Le président élu des États-Unis a fustigé les droits de passage imposés sur les navires américains qu'il considère, je cite, comme ridicules. Mais le président du Panama, José Raúl Mulino, répond et fermement, Victorien Thomas.
Le pays d'Amérique centrale a la pleine souveraineté sur son canal depuis 1999 après un accord signé avec les États-Unis justement. Un point que Donald Trump semble avoir oublié, mais le président panaméen José Raúl Mulino le lui rappelle dans sa réponse publiée sur X.
En tant que président, je souhaite exprimer clairement que chaque mètre carré du canal de Panama et de ses zones adjacentes appartiennent au Panama et continueront à lui appartenir. La souveraineté et l'indépendance de notre pays ne sont pas négociables.
Et quand le futur locataire de la Maison-Blanche s'inquiète de l'influence grandissante de la Chine sur le passage qui relie les Caraïbes au Pacifique, José Raúl Mulino rectifie.
Il n'existe pas de contrôle direct du canal par la Chine, l'Union européenne, les États-Unis ou toute autre puissance.
Une affirmation claire, le canal est et restera panaméen. À cela, Donald Trump a répondu sur son réseau Truth Social, une menace à peine dissimulée, je cite, « on verra ça ».
Victorien Thomas du service international de RFI. Et Donald Trump s'en est aussi pris une nouvelle fois aux droits de la communauté LGBT. Il dit vouloir, je cite, stopper le délire transgenre dès son arrivée à la Maison Blanche. C'est dans moins d'un mois. Je signerai des décrets, dit-il, pour exclure les transgenres de l'armée, des écoles primaires, des collèges et des lycées. Honda et Nissan officialisent l'ouverture de négociations en vue de créer le troisième groupe automobile mondial avec 8 millions de véhicules derrière Toyota et Volkswagen. Mitsubishi Motors, partenaire de Nissan, sera associé aux discussions. Dépassé par les constructeurs chinois dans les voitures électriques, Honda et Nissan ont vu leurs ventes s'effondrer en Chine, la Chine qui reste le premier marché automobile au monde. Et si les négociations aboutissent d'ici juin 2025, Honda et Nissan se réuniront dans une holding commune. Honda nommera le dirigeant de la future holding ainsi que la plupart des membres du conseil d'administration. Au Japon, la correspondance de Frédéric Charles.
Ce ne sera pas une fusion entre égaux. Elle sera menée par Honda. Sa valorisation en bourse est 4 fois plus élevée que celle de Nissan. Du Liban, où il est apparu par vidéoconférence sur un écran du club des correspondants étrangers à Tokyo, Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi, rend déjà son verdict. Nissan capitule en mode panique devant Honda, qui n'a aucune expérience des fusions. Foxconn, le géant taïwanais de l'assemblage électronique, fournisseur de Samsung, Apple, se fait une place dans la voiture électrique. Il veut prendre une participation dans Nissan ou racheter les quelques 35% du capital de Nissan détenu encore par Renault. C'est ce que croit savoir Batista Research, présent sur Smart Karma, la plateforme de recherche en ligne. Le Japon s'ouvre enfin aux fusions et acquisitions de ses entreprises par des groupes étrangers. Personne n'est en sécurité, affirme Nicolas Smith, le stratège de la banque CLSA à Tokyo. Mais dans le cas de Honda et Nissan, le gouvernement japonais préfère une consolidation entre Japonais. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Nouvel album et nouvelle tournée pour le chanteur Sanseverino, guitariste, auteur, compositeur, interprète. Il a sorti récemment un disque intitulé « C'était mieux maintenant » Edmond Sadaka.
C'était mieux maintenant, c'est un album de 11 titres énergiques, engagés, comme par exemple Zéro Travail. Le texte évoque les inégalités sociales et surtout la manière dont les artistes s'emparent de ce thème depuis fort longtemps.
Nous sommes devenus tous à mort, minables fonctionnaires de la chanson, contestataires.
On est très loin ici du registre des débuts de Sanseverino, quand la guitare manouche, style Django Reinhardt, régnait en maître.
Je voulais pas faire tous mes albums de la même manière, donc le swing j'ai arrêté, j'ai commencé à prendre un peu du large. Je continue toujours à écouter Django, je pense que c'est même un des rares que j'écoute toujours. Je pratique toujours la guitare swing, voilà, comme ça, j'aime bien.
Initialement prévu pour être enregistré en Afrique, au Mali et au Sénégal notamment, c'est finalement à Bruxelles, en Belgique, que l'album a été réalisé avec des musiciens venus d'un peu partout en Europe et avec des arrangements qui mélangent le rock, le blues et l'afrobeat.
La température grimpe, bientôt 50 degrés. J'ai pas la solution pour passer cet été. Je m'informe et j'observe, j'aime être concerné. Je zappe de chaîne en chaîne, y'a rien à en tirer. Jachère, capitalisme, ne font pas bon ménage. Il faut que ça produise tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Si la terre est fertile, l'humanité aussi. Prolifique en missiles, productive en conneries. C'était mieux maintenant. C'était mieux maintenant.
Et une tournée de Sanseverino a démarré en parallèle de la sortie du disque. C'est dans toute la France, avec notamment une date à Paris, le 29 décembre à la Bellevilloise.
Farkoff, rebelle de circonstances, se noie dans la Smirnoff et on vit réveille France. N'en ont plus rien à foutre, planquer les perfectos. Le commando Massoud est parti bien trop tôt. Idem Jacques Mesrine, idem Michel Colucci, symbole de liberté. Assassiné trop tôt.
C'était mieux maintenant.
Tout de suite, le journal des sports. Les sports, c'est avec vous. Salut Diouf, bonjour.
Bonjour Margot.
On commence avec du football et ça passe de justesse pour le PSG en Coupe de France.
Un but partout à la fin du temps réglementaire. Les buts ont été inscrits par Kouzanov et Ramos. Il a donc fallu attendre la séance de tir au but pour départager le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Une séance durant laquelle le gardien russe Matvei Safonov s'est illustré avec deux arrêts. Les Parisiens vont affronter les amateurs d'Espali qui évoluent en 5e division pour le prochain tour.
Et d'autres résultats de Coupe de France ?
Oui, et ça passe aussi pour l'Olympique de Marseille après sa victoire écrasante face à Saint-Etienne. Les Olympiens n'ont pas eu un tirage facile pour le prochain tour puisqu'ils joueront contre le LOSC en 16e de finale. Autre résultat d'un club de Ligue 1, Rennes s'est qualifié après avoir battu Bordeaux 4 buts à 1. Les Bretons affronteront 3 en 16e de finale.
Et du football, toujours avec de la Première Ligue.
Liverpool continue d'assommer la Première Ligue. Les Reds ont livré un grand match dimanche pour corriger Tottenham sur leur pelouse. Une victoire spectaculaire 6 buts à 3. Et surtout, conforter leur place de leader. Un succès qui porte la marque de Mohamed Salah. L'attaquant égyptien s'est régalé avec un doublé et a même pensé à partager avec ses coéquipiers puisqu'il a ajouté 2 passes décisives. Salah est dans une forme étincelante. Déjà 15 buts et 11 passes décisives déjà pour lui en Première Ligue. Et son entraîneur Arne Slot ne tarit pas d'éloges sur son joueur.
Mo a juste montré ce qu'il montre depuis tant d'années à Liverpool, que l'équipe n'a qu'à le servir dans cette zone où il peut toujours marquer ou faire une passe décisive. Et au-delà du super joueur qu'il est, c'est une personne avec qui il est agréable de travailler. Il est toujours là pour aider ses coéquipiers. Et c'est quelqu'un de très terre-à-terre. Je suis sûr qu'il est déjà en train de travailler pour bien récupérer. Il sait très bien ce que ça demande d'être à un tel niveau tous les 3 jours.
Et pour rappel, pas de trêve hivernale pour la Première Ligue, puisque Liverpool jouera jeudi contre Leicester pour le traditionnel Boxing Day.
Un mot de tennis maintenant et de l'homme qui a marqué ses 12 derniers mois.
L'année du tennis aura vu un homme survoler les débats, l'Italien Yannick Sinner, qui en 2024 s'est installé sur le trône à grands coups de première, Eric Mamrut.
Yannick Sinner s'offre le premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Immense exploit de ce garçon qui confirme tous les progrès réalisés ces derniers mois.
Si en janvier dernier, Yannick Sinner est devenu le premier Italien vainqueur de l'Open d'Australie, c'est quelques semaines plus tôt qu'il avait endossé le costume de patron du circuit. En battant à 2 reprises le maître Novak Djokovic et en offrant à l'Italie sa première Coupe Davis après celle de 1976. Depuis, celui qui, adolescent, était champion de ski n'a cessé de glisser vers les sommets. Sur les surfaces rapides, essentiellement, son intensité et la puissance de ses frappes ont fait merveille. Après l'Open d'Australie, le grand roux de 23 ans a ainsi soulevé les trophées à Rotterdam, Miami, à Halle, sur gazon, à Cincinnati, à New York également, en pochant avec l'US Open le 2e titre du Grand Chelem de sa carrière, puis encore à Shanghai, au Masters de Turin, avec cerise sur cet énorme gâteau, 8 bougies, une 2e Coupe Davis consécutive. Une razzia seulement contrariée par 6 défaites cette saison, dont 3 signées de son principal rival, Carlos Alcaraz, l'Espagnol vainqueur à Roland-Garros et à Wimbledon des 2 autres couronnes du Grand Chelem. Mais le patron en 2024, ce fut bien Yannick Sinner, le tout premier numéro 1 mondial italien de l'histoire, toujours imperturbable sur le court, mais qui achève l'année avec une épée de Damoclès sur la tête, celle d'une possible suspension pour un double contrôle antidopage positif, des doses infimes d'anabolisants qui pourraient bien le faire chuter du paradis à l'enfer.
Et le verdict du TAS doit être rendu dans les prochaines semaines.
C'était le journal des sports. Merci, Saliou Diouf. Tout de suite, place à notre invité. Plus d'une semaine après, le cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, on l'a dit, l'heure est au recueillement ce lundi de deuil national. Mais alors que certaines zones de l'archipel sont toujours privées d'eau, la colère monte, les questions aussi. Aurait-on pu anticiper l'ampleur des dégâts, du moins les contenir? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité. Bonjour Fahad Idaroussi Tsimanda.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des risques naturels et vulnérabilités, mais aussi chercheur associé au laboratoire de géographie et d'aménagement de Montpellier. Et vous êtes installé à Mayotte depuis 1 an. Un mot d'abord de l'ampleur des dégâts, car lorsqu'on compare les bilans du cyclone Chido et Irma aux Antilles en 2017, on observe qu'Irma avait causé la mort de 11 personnes contre potentiellement des milliers de victimes à Mayotte. Pourtant, l'intensité de Chido rapido était plus faible. On parle de vent à 220 km/h contre 320 km/h pour Irma aux Antilles. Alors comment expliquer que le bilan et les dégâts matériels soient plus élevés à Mayotte ?
En effet, il existe plusieurs facteurs qui expliquent qui expliquent la situation que nous connaissons actuellement. Dans un premier temps, nous avons la pauvreté, l'urbanisation rapide des non planifiés, et enfin la connaissance, la culture et la connaissance, et la conscience du risque. En fait, dans un premier temps, nous avons la question liée à la pauvreté. Il faut savoir que l'île de Mayotte, c'est un territoire qui est où l'État n'investit pas assez pour pallier à ce problème. Et il faut savoir que environ 78% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Du coup, cette question-là explique la situation telle que nous connaissons actuellement. Ensuite, il y a aussi la question d'urbanisation rapide et non planifiée. Il faut savoir que les bidonvilles, ce sont des quartiers qui ont été construits à flanc de colline sur des zones, sur des terrains appartenant à l'État, dont les municipalités n'ont pas forcément la possibilité, les moyens de gérer ces territoires. Donc, les constructions se font de manière très, très anarchique et des constructions sans fondation, ce qui explique qu'un coup de vent peut détruire ces maisons-là. Et enfin, dans un dernier temps, nous avons la connaissance, la culture et la conscience du risque. Il faut savoir que le dernier cyclone ayant impacté Mayotte, c'était dans les années 1930, un cyclone de cette ampleur, de même calibre que Chido, c'était dans les années 1930. Et le dernier cyclone, disons avec un calibre un peu plus bas, c'était dans les années 80. Du coup, il a fallu attendre 40 ans après, 90, ensuite 40 ans après, pour que Mayotte connaisse enfin un phénomène de cette ampleur-là. Donc, ce qui fait que la conscience des gens, la culture, la connaissance du risque, s'est endormie. Et la population n'était pas du tout préparée à ce phénomène, ce qui fait que, nous assistons à ce phénomène que nous connaissons actuellement.
Alors, vous évoquez les précédentes catastrophes naturelles qu'a connues Mayotte. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait pu anticiper une catastrophe de cette ampleur ?
Anticiper une catastrophe, avec les moyens que nous disposons actuellement, oui, on peut analyser sa trajectoire. Mais si sur un territoire, les autorités ne sont pas préparées, les autorités ne partent pas à la rencontre de la population, essayer de les inculquer, essayer de les éduquer, essayer de discuter avec eux, de leur demander leur avis. Si un tel phénomène venait à se produire sur l'île, comment est-ce qu'on pourrait faire face à ce phénomène? Donc c'est d'un côté, nous avons un État qui était absent. Parce qu'il faut savoir que le dispositif de gestion des risques qui sont appliqués à Mayotte, les dispositifs de gestion des risques et des crises qui sont appliqués à Mayotte, c'est un dispositif qui est pensé depuis Paris. C'est une approche plutôt top-down, où on impose. On n'essaie pas d'aller voir la population, de discuter avec eux, de les mettre en confiance et leur demander tout simplement leur avis. Parce que si la population se sent plus concernée, si la population est impliquée, je pense que une catastrophe de pareille ampleur aurait pu être évitée.
Alors ce dispositif d'alerte, justement, est-ce qu'à Mayotte, il a fonctionné de manière égale dans tous les territoires de l'archipel ?
Il faut savoir que la gestion des risques et des crises à Mayotte, l'élaboration de plusieurs documents. Nous avons le PCS, le DICRIM. Le DICRIM, c'est un document d'information qui informe les populations sur les risques qui existent sur un territoire. Ensuite, nous avons le PCS. Le PCS, c'est un document qui est mobilisé pour faire face à un phénomène naturel. Du coup, il faut savoir qu'ici à Mayotte, ces documents-là sont pour certains obsolètes ou n'existent quasiment pas ou n'ont jamais été testés. Et il faut savoir que ces documents-là, ce sont des documents qui sont pensés depuis Paris et qui sont imposés ici à Mayotte, avec un territoire qui a ses spécificités, qui a ses histoires, qui a des populations qui ont des vécus, qui ont des appréhensions, qui ont un rapport assez particulier avec les autorités. Du coup, il serait plutôt intéressant d'avoir plutôt une approche horizontale, une approche bottom-up, c'est-à-dire depuis la base, demander à la population, voilà, comment est-ce qu'on pourrait traiter un tel phénomène. Du coup, peut-être à l'avenir, on pourra... Oui.
Oui, une dernière question, Fahadi Daroussi de Simanda. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la reconstruction. On sait que l'habitat précaire a été entièrement détruit. Comment repenser l'habitat à Mayotte à l'avenir ?
L'habitat précaire, en fait, c'est un habitat qui ne doit pas exister, en tout cas dans un département français. Il faudrait, en fait, à l'état de... L'État dispose de plusieurs terrains, le département dispose de plusieurs terrains. Il faudrait répondre à ce manque de logements, parce qu'il faut savoir qu'ici à Mayotte, il existerait à peu près 100 logements pour 1000 habitants. Du coup, voilà, il y a un manque criant de logements. Du coup, il faudrait prendre conscience de ce problème-là et pallier à ce problème de logements.
Merci, Fahadi Simanda. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie, spécialiste des risques naturels et vulnérabilités. Tout de suite, notre reportage international. À deux jours de Noël, notre reportage international nous emmène au Canada, dans la province du Québec, une région qui se distingue par sa forte production de sapins de Noël. Parmi eux, le baumier est réputé pour son odeur, mais avec les changements climatiques, cette espèce emblématique se trouve de plus en plus vulnérable car elle est sensible aux variations de température. Les producteurs de sapins adaptent donc constamment leur méthode pour fournir des arbres de qualité. Notre correspondante Pascale Guéricola a visité une plantation dans la région de Québec.
C'est important de le mettre dans l'eau.
Venus chercher leur sapin de Noël dans une plantation, ses clients écoutent les conseils pour éviter qu'il ne sèche et ne perde ses aiguilles.
Excellent, parce que ça a vraiment besoin d'eau, c'est la nature. Et puis il va revenir comme au printemps.
Les acheteurs ne se doutent pas cependant des difficultés de culture que rencontre Junior Belleville, copropriétaire de Mon Beau Sapin. L'augmentation des températures nuit à ces arbres caractéristiques de Noël. Il pousse en rang serré dans une série de champs enneigés, non loin de la ville de Québec.
Le petit sapin, lors des deux premières années, a besoin de beaucoup de neige pour être isolé du froid. Dans le fond, on a de moins en moins de neige au Québec. Ensuite, les deux derniers hivers, on a eu des fortes pluies. Après ça, c'est suivi de grands froids. Le gel pousse les sapins en dehors du sol. Ici, on a un sapin mort là, qui a été implanté un an. Il n'y a pas assez de neige, il y a trop de pluie. C'est vraiment compliqué.
Pour éviter les pertes, Junior Belleville varie les espèces de sapins selon le sol. Il lui faut aussi installer des tuyaux souterrains et des fossés pour éviter que l'eau ne s'accumule. Les pluies hivernales, aujourd'hui plus fréquentes, ont tendance à faire pourrir les racines.
Ouais, on va passer à gauche. Ça, c'est les fortes pluies de cette semaine. On voit là, les grandes flaques. Alors, regarde ces sapins-là. Ils ont été plantés en même temps que les sapins en haut. Ils ont environ quoi? 2 pieds de moins? Ils ont de la difficulté avec les fortes pluies.
Certains producteurs de sapins doivent se détourner de la culture du baumier, considéré pourtant comme l'arbre caractéristique de Noël au Québec, parce que cette variété déteste les changements de température. Loïc d'Orangeville, professeur en écologie forestière à l'Université Laval, constate le déclin de ce sapin dans l'est du Canada.
C'est vraiment une espèce d'arbre qui est idéale pour la culture, mais là, les changements climatiques viennent un peu brouiller les cartes. On a des sécheresses de plus en plus fréquentes, donc ces sécheresses-là, ça impacte particulièrement le sapin parce qu'il y a besoin d'un climat assez constant. Et là, c'est de moins en moins ce qu'on retrouve et il est très vulnérable, très susceptible à des insectes, à des pathogènes, à des champignons et donc tout ça, ça l'affecte.
À entendre le chercheur, ce sapin va perdre sa position dominante dans les forêts canadiennes, laissant la place à des espèces qui apprécient davantage la hausse des températures.
Sans cesse, nous nous battons pour protéger les journalistes. Sans limite, nous nous battons pour contrer la propagande. Sans jamais reculer, sans jamais abandonner, sans frontières. Mais pas sans vous. Nous avons besoin de vous pour défendre la liberté de la presse et votre droit à l'information. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières, fight for facts.
RFI, la sélection du mois.
depuis qu'on n'est plus des sœurs.
Yua.
Je l'avouerai à contre-cœur. La vie me fait presque un peu peur et j'imagine toujours le pire. Oh.